102.1. Voici Marceau le midi.
Jeff Fortin qui a pris congé hier. Des ennuis à la maison. Une petite gastro peut-être? Pas lui, c'était ses enfants. On soupçonnait ses enfants. Finalement, tout a bien passé.
Écoute, on était en tournoi d'hockey à Trois Pistoles cette fin de semaine. Et qui dit tournoi d'hockey dit Partel Hotel.
Donc, ils ont mangé des cochonneries.
Ah, notre édou national a mangé des cochonneries. Les gars ont même essayé, mais c'est pas pire. T'sais. Ils ont 14 ans, ils sont pas encore rendus là. Au lieu d'essayer de nous voler de l'alcool, ils nous ont volé du café pour goûter au café.
OK.
Fait que là, tu sais, en tout cas, bref...
Ah, c'est des petits voleurs de ce qu'il y a dans la
chambre d'hôtel. Ah, ouais, puis tu sais, les fameux mélanges là, au resto que je pitche tout dans un verre puis je fais un concours de qui est game de le boire.
Ouais. Là,
fait que,
c'est là.
Hey, ça a l'air vraiment le fun, un tournoi de hockey.
C'est
ça me donne
malade comment c'est le fun.
Moi, ça fait partie des plus beaux souvenirs de jeunesse. Oui. Puis en fin de semaine, mon gars était dans le secteur de Drummondville. Tu sais, je prends régulièrement... Je tannais un peu avec mes gars. Je prends régulièrement mes gars en photo, tu sais. Parce que je veux me souvenir de certains moments présents et tout ça. Puis j'ai comme toujours une petite tendance à regarder. T'sais. Quand il y a des photos de groupe, je regarde tout le temps la face de mon gars et comment. T'sais. Puis en fin de semaine, il a fait une photo de groupe avec ses amis. Puis j'ai vu le sourire de mon Isaac quand il est vraiment heureux.
Un
puis
vrai ça, là, franc, sincère.
C'est pas un sourire forcé ou une grimace un peu innocente comme mon gars me fait régulièrement quand je dis « Fais-moi un beau sourire! » Il me fait une face tout croche. Là, je voyais vraiment que mon gars était heureux. Puis même si c'est difficile en tant que parent, des fois, de se lever le samedi puis le dimanche matin, puis de pas avoir de vie, parce que des fois, moi, j'en ai deux. Des fois, les arénas sont malheureusement pas un à côté de l'autre. Là, fait qu'il y a comme 100 km de différence entre les deux. C'est difficile en tant que parent, des fois, de faire ça. Mais juste le sourire de nos enfants, ça fait en sorte qu'on se dit « Criff, j'ai eu des enfants pour moi d'abord et avant tout, mais après ça, je rends des êtres heureux en leur faisant vivre ces expériences-là. » Ça fait partie des plus beaux moments de leur vie.
On niaise, mais c'est une des affaires que j'ai goût de vivre, moi, dans la vie.
Ben oui.
De voir mes enfants s'accomplir dans leur sport, mais s'accomplir dans le social aussi, s'accomplir dans la détermination de se dépasser, puis d'être, tu sais, soutenant en tant que parent dans toutes ces étapes-là. Puis vous avez la chance, les gars, de le vivre avec vos petits gars, puis toi, de coacher en plus.
Mm-hmm.
Mais c'est juste le verre là, avec le ketchup, la moutarde, un peu de sel. Mais... Parce que j'ai travaillé quand j'ai au sport, puis quand les gars arrivaient, nous autres, on ramassait ça. Là.
Mais j'aime ce que tu dis, parce que moi, j'étais assis dans le fond de la salle samedi dernier, puis... Là, les jeunes jouaient, c'était organisé un tournoi de mini-hockey. Puis j'ai vu mon hidou assis dans le fond de la salle en train de commenter le match comme son père faisait à 14 ans. Puis le smile
ben ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas facile. Hein. Les gens, ils pensent que « Ah, mais tu sais, toi, tu joues au hockey, fait que tu vas avec tes gars au hockey la fin de semaine des arénas. » Oui, mais tu sais, je laisse ma blonde de côté.
Oh, oui.
Je laisse ma maison de côté que je m'occupe pas pendant que je suis dans les arénas. Quand je reviens le soir, je suis brûlé, mais il faut que j'essaie de compenser à la maison parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que je fasse du ménage.
Ah, t'as raison.
Je fasse du classement. Mais c'est ça. On fait quelque chose de bien pour nos enfants. Puis je salue toutes les mamans hockey puis les papas hockey, les hockey dads et les hockey moms. On travaille fort, mais ça vaut la peine. Puis savez-vous quoi? Ça va être payant plus tard parce que nos enfants vont avoir eu des super de beaux souvenirs puis une super de belle enfance. Fait que salutations. Faut se féliciter une fois de temps en temps, les amis. Oh boy! Matt Rempe. Pascal, parle-moi de Matt Rempe.
Je savais que tu
irais Nouvelle sensation. Un gars de, je dirais, 240 livres, 6 et 7, 6 et 8. Là. Sur des fiches, il est à 6 et 8. Sur d'autres fiches, il est à 6 et 7.
Un colosse de 6 et 7, là, 241 livres.
Frappe fort.
Déjà 3 combats quand même. Là. C'est impressionnant.
Il frappe fort en sacrifice.
C'est 3 combats à ses 5 premiers matchs dans la LNH.
Ouais.
Est-ce trop?
Chez les...
Rangers de New York.
Et voilà!
Ouais!
Yeah!
Hey, 21 ans, c'est un cheval! Ça me fait penser à Zdeno Chara quand il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey.
Vraiment? On s'ennuie de jouer de même, finalement. On ne se le cachera pas. Hein?
Personne va dire qu'il aime la bagarre au hockey. Personne ne va dire ça. Sauf que quand ça arrive au centre Vidéotron, mettons qu'il y a une
tout
bagarre,
le monde se lève.
Les 20 000 personnes se lèvent, puis je sais pas, sont comme tout outrés en applaudissant.
Oui, tous les journalistes de Montréal sont contre les bagarres dans le hockey, mais quand Jacky jette les gants, là...
Ouais.
Faut pas l'échanger, Jacky, on a notre besoin.
Notre besoin, c'est un méchant.
Mais pour de vrai, on s'ennuie d'un joueur de même. Puis je comprends les Rangers pourquoi ils l'ont. Parce que souviens-toi, 2021, quand Tom Wilson a tabassé Artemi Panarin, puis Panarin n'en est pas revenu, puis les Rangers ont fait patate au début des séries. Ils veulent pas que ça se reproduise.
Comment t'as trouvé le combat contre Delorier, Rempe contre Delorier?
En désavantage pour Deslauriers?
Ah non, non, non. Deslauriers, il n'a pas eu le dessus complètement, mais mettons, c'est lui, ça aurait été lui le gagnant.
Mais tu sais...
Ouais, mais c'est pas lui qui a gagné finalement.
Oh, oui, c'est lui qui a gagné. Ouais,
non, ouais. C'est ça,
non. Félicitations à Rempe d'avoir ce... Non, mais c'est vrai, d'avoir ce courage-là. Hey, Deslauriers, là, c'était un dur de dur, ouais. Là. Ben, un vrai.
Mais je pensais que c'était fini, ça.
33 ans, Deslauriers. Ça ouais. fait des années qu'il se bat dans la Ligue nationale. Puis lui, le kid, à 21 ans, son quoi, quatrième match à vie. Mais à voir, les savates à terre.
Tu sais, mais il y a 21, ça veut dire qu'il était à 2,40. Moi, je te dis qu'à 25, il va être autour de 2,50, 2,60.
Facile.
Là. Ça va être probablement le matamor. S'il n'est pas trop commotionné, là, ouais. Ça va probablement être le matamor de la Ligue nationale de hockey ouais. pendant plusieurs années. Bon, on arrête de parler des choses plates.
Ah, je savais que tu me parlerais de Rumpel, puis j'aime ça.
Canadiens, ce soir, ouais. c'est au Centre Bell contre les Coyotes.
Ah, deux équipes en difficulté. Canadiens, une seule victoire à leurs 7 derniers matchs, c'est contre les pauvres Ducks.
Le coach Pee-Wee, il trouve ça comment, là?
Ben là, le coach Pee-Wee, il trouve ça comment, le Canadien? Je vais te dire bien honnêtement, le coach Pee-Wee s'en attendait parce que quand tu arrives à cette date-là, les bonnes équipes font juste augmenter leur niveau. Puis le Canadien, malheureusement, n'est pas encore... dans la catégorie des bonnes équipes. Donc, l'écart se creuse, puis c'est ça qui arrive.
Avez-vous vu la citation de Martin Saint-Louis hier? Tu l'as dit, Jeff, on a une victoire à nos ouais. 5-6 derniers matchs face aux Ducks. Il a dit en conférence de presse, « Les 5-6 derniers matchs, oui, on a des défaites, mais ça a été les 5-6 meilleurs matchs de la saison consécutifs. »
Ah oui?
C'est ça qu'il a dit en conférence de presse. J'ai de la misère à voir ça parce que ça a été des matchs hyper difficiles. Ouais.
Mais j'imagine qu'il regarde les statistiques avancées. Là.
Ben, c'est sûr. Lui, il a tout devant lui.
Régulièrement ça. Ouais, Martin Saint-Louis doit faire ça aussi. Fait qu'il voit qu'il y a de l'amélioration à certains endroits. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que... Comment il s'appelle? Burroughs, là, qui est un excellent joueur de deck hockey. Un excellent joueur de hockey aussi.
Pas joueur de foot, là.
Non.
Non, Alex Burroughs.
C'est un gars que j'aime bien, mais il est là. Il est là pourquoi? Ça fait longtemps qu'il aurait dû perdre sa job, ben ce
oui.
gars-là.
Là. L'avantage du Canadien va pas tant bien que ça. Mais ce qui m'inquiète, moi, dans le camp du Canadien, je trouve, c'est que depuis plusieurs matchs, je vois pas un Canadien qui a énormément de chances de marquer par rencontre. Puis dans les chances de marquer qu'ils ont, ben c'est le premier trio. Tu sais, Gallagher a marqué un samedi d'un tir qui sortait un peu de nulle part. Là. J'ai regardé les deux premières périodes à l'hôtel samedi. Mais... je trouve qu'il y a un manque flagrant de prendre l'enclave du côté de Montréal. Puis ça m'inquiète pour le long terme. Parce que je me dis, on est en train de développer de quoi? Oui, je sais qu'il faut être patient. Mais le Canadien est quand même rendu à l'entrée de ce plan-là. Normalement, offensivement, on devrait être un petit peu plus avancé. Je comprends qu'il manque Kirby Dack, mais ça ne peut pas juste reposer sur Kirby Dack. Un gars comme Josh Anderson est ben trop absent offensivement cette année.
Là, il y a des rumeurs comme quoi on pourrait aller chercher Monsieur Michigan. Là.
Trevor Zegras.
Ouais.
Tu y crois-tu?
Ben, si j'y crois, je vais te répondre...
Tu veux-tu un joueur avec cette attitude-là chez le Canadien?
C'est pour ça que je te dis, je vais te répondre avec un non-oui. Là, j'y crois dans le sens que le Canadien, c'est vrai qu'ils ont besoin de punch offensif. J'y crois pas parce que je suis convaincu que et Martin Saint-Louis et Ken Hughes voient Kirby Dack comme le deuxième centre de l'organisation. Donc, ils iront pas chercher Trevor Zegras, un joueur de centre, pour commencer à le faire batailler avec Dack et Suzuki. Finalement, couper du temps de glace, c'est un gars qui a pas une bonne attitude. Fait que tu sais, je crois plus ou moins, si tu me parlais d'un ailier marqueur, là, je te dirais oui tout de suite, parce que ça va prendre quelqu'un pour entourer Kirby Dack. Là, si on regarde, l'an prochain, Dack va jouer avec qui? Là, avec Josh Anderson, il a ses buts depuis le début de l'année. Josh Roy, moi je trouve que c'est un bon choix, Josh Roy, mais ça veut dire que ton enquête de ton plan de reconstruction, ben, tu es encore à l'an 2 si Josh Roy, c'est tes deux premiers trios.
Oui. Tu considères que Joshua Roy doit rester avec le Canadien jusqu'à la fin de l'année?
Clairement. Moi, Joshua Roy, je trouve que c'est un joueur physique, il est créatif, il a des super belles habiletés offensives, une bonne vision du jeu. Moi, je crois qu'on se doit tout simplement de commencer son développement. Comme on l'a fait, puis là, je ne comparais pas les deux joueurs parce que je suis convaincu que Cole Caulfield va avoir une meilleure carrière que Joshua Roy. Mais comme on l'a fait avec Caulfield, à 20 ans, il était dans la Ligue nationale, comme on fait présentement avec Slafkovský, qui est en Ligue nationale à 19 ans. Joshua Roy, c'est un gars qui a gagné 2 médailles d'or avec Team Canada. C'est lui qui fait la passe à Dylan Gunter en prolongation l'an passé pour la médaille d'or. Donc, Tu sais, à un moment donné, c'est un gars qui a très bien performé au niveau international. Je pense qu'il mérite une chance.
Est-ce qu'on s'attend à le voir plus en power play, mettons, sur la deuxième ligne?
Moi, j'aimerais. Ouais, là, tu sais, le Canadien est 22-28, sont avant-derniers dans l'Est.
C'est le temps d'essayer.
Ah oui, c'est le temps, go. Comme on l'a fait avec Harvey Pinard l'an passé. Harvey Pinard, malheureusement, cette année, les blessures l'ont vraiment ralenti. J'ai hâte de voir l'an prochain dans une saison plus normale, si jamais il n'est pas blessé, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner. Je le vois encore comme un joueur de troisième trio là, dans la Ligue nationale.
OK. Sinon, un premier doublé pour Hendrick Lapierre contre les Sénateurs.
Oui, lui, il a une belle opportunité présentement avec les Capitals de Washington parce que Evgeny Kuznetsov est présentement dans le programme d'aide pour les joueurs et Nicolas Backstrom est blessé du côté des Caps. Donc, c'est ouvert pour la ligne de centre. Et là, Lapierre semble vouloir enfin profiter. Lapierre, c'est un choix de première ronde, 22e au total lors de du repêchage 2020. Mais il y a eu deux grosses commotions cérébrales par la suite avec les Saguenay de Chicoutimi, fait que ça a vraiment retardé sa progression. Là, il est enfin en santé depuis 2 ans. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire d'ici la fin de l'année parce qu'il pourrait se mériter un poste là, dans la Ligue nationale à long terme là, avec une bonne fin de saison pour lui.
Puis c'est un gars que j'ai vu longtemps jouer, moi, avec les Saguenay de Chicoutimi. C'est un gars qui a extrêmement de talent puis qui a une éthique de travail exceptionnelle. Quand j'allais voir les Sacs, souvent, je me le faisais dire. C'est un gars qui veut réussir, puis ça paraît. Mm. Puis c'est un tout premier choix au repêchage de la JMQ. Là. Donc, le talent, il est là. Puis je pense qu'avec les Capitals, qui ont une équipe extrêmement vieillissante, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de personnes en derrière en termes de jeunesse, avec un Lapierre, avec un McMichael aussi qui commence à rentrer, qui commence à faire bien les choses, c'est très, très bon pour les Capitals parce qu'on le sait, ça commence à se faire vieux, les Ovechkin, les Backstrom, les Kuznetsov, les Tom Wilson, donc c'est très beau à voir.
Fait qu'un beau Québécois à surveiller d'ici la fin de l'année. Canadien va repêcher Caden Goulet au 16e rang du repêchage 2020, bon choix pour Montréal. Il y a un bon Québécois qui fait très bien également au New Jersey, repêché 18e, Dawson Mercer.
OK. Sinon, Jake Gutnetzel.
Jake Genzel.
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 Ça se dit Genzel.
Ça s'écrit Gutnetzel.
Ouais. Genzel.
Genzel. Donc, qu'est-ce que va faire les Pingouins avec Genzel?
Les Pingouins sont tellement pris au piège. Ils ont Jake Genzel qui va tomber joueur autonome à la fin de l'année. Présentement, il commande un contrat de 6 millions par année, mais il va signer entre 8 à 9 millions par saison avec les statistiques qu'il met sur le tableau depuis 3 ans, notamment cette année avec 52 points en 50 matchs. Là, il est blessé. Il devrait revenir avant la date limite du 8 mars. Et ce qui arrive avec les Pingouins, c'est qu'au niveau du plafond salarial, malheureusement pour eux, malheureusement, ils ont mal géré leurs choses en allant chercher Eric Karlsson qui commande un salaire de 11 millions par année. L'an prochain, ils ont seulement 15 joueurs sous contrat et ils ont déjà dépensé 70 millions de dollars. Fait qu'il va rester à peu près entre 15 à 17 millions, dépendamment comment le plafond salarial va augmenter, pour signer 8 joueurs. Donc, on n'a pas de place pour Genzel.
On échange-tu Crosby?
Ben, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je pense que Crosby va rester un pingouin à vie. Je vois plus peut-être un Malkin, un Christopher Letang peut-être partir. Est-ce qu'on va tenter Tristan Jarry dans les filets, jamais donner ce qu'il est censé donner, puis il gagne plus que 5 millions par année. Est-ce qu'on va tenter de repartir avec un jeune devant le filet? C'est tous des possibilités là, que les Pingouins peuvent explorer.
Comment ça va à Winnipeg?
Hey, à Winnipeg, ça va pas bien. Moyenne d'assistance de 13 000, un petit peu plus de 13 000 personnes, 13 098 personnes par match.
Au Rempart, on était comment? 11 700?
Ouais, c'est à peu près à la même place que les Jets.
C'est pour, puis on va se le dire, là, les Remparts de la dernière année étaient une équipe extrêmement forte avec le départ de Patrick Roy, avec le départ des joueurs qui étaient à leur dernière année. Ça a fait en sorte qu'on a une jeune équipe maintenant. Le jeu est pas, je te dirais, la structure de jeu est correcte, mais les passes sont pas toujours sur la palette.
Mais non.
Le système n'est pas tout à fait respecté. Puis on réussit quand même, avec toute l'ambiance qu'on met en place, à aller chercher 11 700 personnes.
C'est fou, hein?
Puis tu sais que maintenant, dans une équipe de la Ligue nationale, à Winnipeg, 13 000 personnes.
Ouais. Ça va pas bien. On avait 13 000 billets de saison vendus normalement en moyenne par année. Ça l'a chuté en bas de 10 000 billets de saison cette année. Je pense que c'est 9 450. J'y vais de mémoire. Alors, les Jets qui sont revenus en 2011, bien, le président Mark Chapman a dit « Écoutez, si ça continue comme ça, on va déménager l'équipe. » Donc, ça nous prend un meilleur support, ça nous prend plus de ventes de billets de saison. Mais tu sais, dans le sport, il faut que tu gagnes. Là, les Jets sont venus en 2011. Ils n'ont jamais franchi la deuxième ronde des séries. Ils n'ont pas touché à la deuxième ronde depuis 2018. Fait que tu as bien beau dire, je suis un marché naturel, je suis au Canada, je pense que je vais remplir mes estrades. Si année après année, tu perds, là,
Mais ça brasse-tu? T'as-tu déjà été dans cette aréna-là? Ça brasse-tu comme ça peut brasser dans d'autres?
Ben, je suis jamais allé. Il y a toujours une belle ambiance lorsqu'ils font les séries. Tout le monde est assemblant.
À Vegas, quand tu vas voir un match de Vegas, là, tu comprends pourquoi il n'y a pas grand monde qui sont attachés à cette équipe-là, mais tu comprends pourquoi tout le monde veut aller s'asseoir dans l'amphithéâtre.
Oui. Puis en comparaison, je suis allé voir un match des Ducks d'Anaheim l'an passé, puis tu comprends pourquoi il n'y a pas de monde qui veut aller s'asseoir.
C'est mort.
Une chance que j'avais Connor McDavid qui jouait devant moi, sinon j'aurais peut-être fait une petite sieste.
À ce point-là?
Ah, il n'y a pas d'ambiance. Mais tu sais, c'est, c'est un aréna de 17 000, il y a 13 000. Fait que c'est comme... C'est ça, il n'y a pas de... Pas d'ambiance. On dirait qu'on n'est pas capable de mettre de spectacle, quoi que ce soit. Pourtant, on pourrait sortir les personnages de Disney et s'amuser avec ça.
Puis essaye de faire des déçus, là. T'envoies Winnipeg où?
Ben, c'est ça la grande histoire, hein. T'envoies Winnipeg où? C'est sûr que tout le monde disait hey, Québec. Mais moi, je pense que les Kings s'en vont jouer à Salt Lake City. C'est sûr que c'est un marché que la Ligue nationale regarde. Et on parle encore. Est-ce que les Trashers qui ont déménagé à Winnipeg retourneraient à Atlanta? C'est le cinquième meilleur marché télévisuel. Gary Bettman le voit encore dans sa soupe. À Houston, le propriétaire est prêt à accueillir une équipe aussi. Fait que malheureusement, je vois Québec un petit peu plus loin. Il y a même Pat Mahomes, le carrière des Chiefs, qui a dit moi, je serais prêt à investir dans une équipe de la Ligue nationale. On a le building à Kansas City.
Mais tu prends une équipe canadienne, puis tu l'envoies aux États-Unis, puis il n'y a pas personne qui va s'en faire avec ça.
Ouais, tu sais, ça va chialer ici au Canada, mais pour le reste, là, ça marche en dollars américains.
Batman va être bien content, là. Gary va être content que ça arrive aux États-Unis si ça arrive.
Okay. Puis tu sais, on a un problème avec le hockey canadien. Pas de coupe cette année depuis 1993 pour une équipe du Canada.
Quelqu'un qui me dit Houston.
Ouais, oui, Houston, propriétaire des Rockets de Houston, est très prêt à accueillir une équipe de la Ligue nationale.
Jeff Fortin, hey, vous avez reçu en une minute, là, vous avez reçu M. Verrett ce matin.
Oui.
Comment ça a été?
Ben, bel entretien. Écoute...
Il me semblait un peu fessé. Là.
Il était très fessé. Honnêtement, là, visuellement, là, tu sais, les traits tendus, les poches en dessous des yeux, il est très fessé par ce qui se passe. Lui, dans le fond, il explique que j'ai juste voulu prendre la défense d'une de mes collègues de travail, puis je suis allé à la rencontre de M. Melançon. Puis, tu sais, il a mis son pied à terre en disant « Hey, c'est assez, man, t'arrêtes ça. » Mais là, tout a débordé par la suite. Puis il dit, là, quand tes enfants te posent la question « Hey, t'es-tu un homme violent? » Il dit « Ouf! » Et ça vient de chercher.
Moi, j'aimais une hypothèse, là. Je pense qu'il y a une entente entre les conseillers et le maire pour ne pas sortir les images vidéo.
Bien, là...
Est-ce que tous les conseillers seraient consentants dans ton entente?
Et je pense que tous les conseillers sont consentants. Pour avoir jasé avec quelqu'un, ceux qui suivent Marceau le midi vont savoir de qui je parle, mais pour avoir jasé avec quelqu'un dans les dernières heures concernant ces images vidéo-là, parce que j'aime bien ça faire des suivis, on me dit... oui, bien sûr, tout le monde veut voir les images vidéo de notre côté. Mais Yann, mon questionnement, est-ce que c'est public?
Steve Verrett nous a dit que ce n'était pas public ce matin.
Cependant, moi, j'aimerais ça savoir si tout le monde est d'accord avec ça. Là.
Ben oui.
Moi, je pense qu'il y a eu une entente avec le Québec pour pas que les images vidéo...
Parce qu'on y a posé la question. On a dit pourquoi on ne fait pas juste montrer les images. Comme ça, on va vous blanchir et c'est fini.
Ouais. Probablement que les deux sont coupables. Probablement que les deux ont fait du débordement.
Convaincu.
Puis ils se sont dit, garde, les images, on peut vous les montrer, mais vous sortez pas ça aux journalistes.
Et Alicia Despins, par exemple, qui, elle, dépeignait une ambiance toxique à la mairie de Québec. Est-ce que
le maire dit que c'était pire avec le maire Labonde?
Yannick, si tu me dis, mettons, c'était plus fun avec Hello, je comprends.
Pas Yannick, c'est le maire.
Mais si, mettons, je te dis, c'était pire avec elle qu'avec toi... Il n'y a pas de...
C'est vrai que Lou était gentil.
Si c'était toxique dans les deux cas, c'est toxique. Il n'y a pas de calibration à faire.
Je suis d'accord avec toi.
Ah oui.
Mais le maire Marchand dit que c'était pire avec Régis Labon. Il est incapable de faire un retour sur lui-même. Il est incapable de prendre quelque chose sur lui en disant, savez-vous quoi? C'est vrai que c'est moi le maire à l'Hôtel de Ville de Québec. Je m'en ai plus rappelé. Puis ça va être le temps pour nous de se jaser toute la gang, conseillers, conseillères, puis qu'on fasse un appel au calme. Là.
Ah oui.
Mais il est incapable de faire ça. C'est la faute à Régis.
Puis Alicia n'est pas ressortie encore là, sur tout ce qui se passe.
C'est pas mal fini. On n'en entendra plus.
Mais Elodie, elle est sortie puis est crampée du haut de son Saint-Fériol. Elle nous écoutait.
J'ai dit à ces verrettes que tout le monde devrait prendre une petite bière ensemble, comme à taverne. On se calme les nerfs et on recommence après.
Ouais. Puis tu sais, en même temps, Verrette, c'est pas la première fois qu'il est impliqué dans une affaire comme ça, là. Hein?
Non,
ceux
c'est des gars.
Ceux qui suivent le conseil de ville de Ville de Québec depuis des années, il est déjà arrivé de quoi avec Verrette? Ouais. Donc, tu sais, je comprends qu'il était fessé ce matin, mais à un moment donné, il faut qu'il se regarde aussi. Là,
ben oui.
Se positionner en victime, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Là.
T'es comme Pierre...
C'est une stratégie de communication. Mm-hmm. Oh, en pensant, on n'est pas les caves à temps plein. Tu sais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, puis tu sais que tu as les deux pieds sur quelque chose qui bouille, la pire des affaires à faire, c'est... je suis victime d'intimidation, ces réseaux sociaux. C'est-tu quoi? Tu fais un job public, on fait tous des jobs publics ici. Quand on dit quelque chose, que les gens soient d'accord ou pas, ça vient, c'est notre opinion, mais ça se peut qu'on se fasse brosser à l'extérieur. Moi, c'est mon cas depuis que je fais de la radio. Fait que lui, j'imagine qu'avec l'expérience politique qu'il a, il sait que ça se peut que dans la vie, il se fasse brosser.
Ben oui, moi, je trouvais ça très drôle parce que quand j'ai fait des sorties contre le tramway, c'est les pro-tramway qui m'écrivaient sur Messenger pour me blaster. Et quand j'ai dit que le budget du maire de Québec était bon, ben là, c'est les gens qui me félicitaient d'avoir été contre le tramway qui me blastaient parce que j'étais pauvre. Fait que j'ai personne m'aime, dans le fond.
Non, moi, je t'aime.
Ah, merci.
Mais c'est drôle, pareil, quand on fait un métier public, ben oui. Il faut donner notre opinion. Parce que quand c'est, exemple, les libéraux qui étaient au pouvoir, je me faisais accuser d'être un péquiste ou encore Québec solidaire.
Ouais.
Puis après ça, quand c'était la CAQ qui était au pouvoir, je me faisais accuser d'être un libéral.
Ouais, ouais.
Mais ça veut dire qu'on fait bien notre job.
Exactement.
On dit ce qu'on
pense. T'a déjà accusé d'être un conservateur?
Non. Non, jamais.
Ça, tu...
Mais je m'entends bien avec les gens de toutes les parties, ceux qui sont au centre, là, dans toutes les parties.
Comme moi.
Je suis toujours bien entendu. Je m'entends rarement avec les extrêmes du Parti conservateur du Québec ou les extrêmes du Parti libéral, quoi qu'il n'y en a pas ben.
Les extrêmes de Québec solidaire?
Les extrêmes de Québec solidaire, à mes yeux, à moi, ils n'existent pas. On les ignore. C'est ça, la vraie sentence.
Pas. On devrait tous les mettre autour d'une table et avoir de grandes conversations.
Non, avec les extrémistes, on n'avance jamais.
T'aurais
non, mais imagine-les tous, mettons tous ceux qui sont un petit peu plus d'extrême politique, là, tous autour d'une table. Pas du même parti.
Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois voulait une carrière.
Bon,
il est parti de l'extrême, puis il s'est mis au centre.
Oui, d'ailleurs, qu'on l'a eu en entrevue la semaine dernière, c'est ce qu'on a vu.
C'était la stratégie à adopter pour quelqu'un qui veut une carrière en politique.
Mais je pense aussi qu'il y a le fait d'avoir vieilli, pris de la maturité. Tu sais, quand t'es jeune, toi, Yannick, là, quand tu ne paies pas grand-chose, quand tu ne vois pas les difficultés aux professionnels, quand tu... Hey, moi, je me souviens, là...
Être communiste...
Être de gauche en tabarouette, jeune.
Être communiste à 17 ans, c'est
correct. Ça va bien.
Hein? Être communiste à 40 ans, c'est de la maladie mentale. Bonne journée.
Salut!
11h55, on revient. Merci, Jeff.
Marceau le midi.
418-971-1021, si vous avez des choses à me dire, il se passe quelque chose sur la route. Salutations à la belle gang sur Twitch, une belle communauté de boulevard qui est sur Twitch. Ça vous tente d'entendre ce qu'on dit pendant la pause ou quand il y a de la musique, ben nous autres, on est online 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Twitch. Puis parfois, ben, on prend beaucoup vos commentaires. Si vous avez des suggestions et tout ça, on aime bien ça. On est rendu où? Ah! C'est comme à chaque mardi, c'est notre ami Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut, Nick!
Bonjour tout le monde, ça va bien?
Ouais, j'ai une question très difficile à te poser, Nicolas Gagnon. Si tu étais un motard, ce serait quoi ton nom de code, mettons?
Bon, c'est une bonne question. Avec tout ce qui se passe à Québec depuis quelques temps, disons que j'éviterais de tomber sur les nerfs d'un motard d'une quelconque manière. Là, mais
Nick le comptable Gagnon.
Puis pourquoi le comptable?
C'est un gars de chiffres. Ouais. On pourrait dire Nick le comptable Gagnon.
Puis ça serait pas pique parce qu'il a poignardé deux personnes le soir de ses 18 ans.
C'est un gars de chiffres. Ça serait le comptable.
On parle, jase, on rit, mais c'est pas drôle. T'sais.
Celui qui est en charge des finances.
Ben, en même temps, je regarde ça puis me dis que le premier ministre du Québec, il est c'est un comptable de formation, puis on voit ce que ça donne. Que je me dis que je sais pas ce que ça voudrait dire dans mon cas si je me nommais comptable, mais je ne suis pas CPA. Donc,
hey, c'est critique, ça, Nicolas Gagnon.
Ouais, ouais.
C'est une bonne pointe. On pourrait t'appeler Pic pareil.
Quoi?
Oh, c'est une bonne pointe que tu viens d'envoyer à Legault. On pourrait t'appeler Pic pareil.
Ouais.
Nick,
petite pointe gagnant.
C'est bon,
ça. Ouais. C'est le même qu'on va t'appeler à l'avenir. Hey, on parle du budget qui va être présenté le 12 mars prochain. Quelles sont tes attentes, tes craintes et tes espoirs par rapport à ce budget de la Coalition Avenir Québec qui sera présenté?
Ben effectivement, écoute, on a appris, je pense que la semaine dernière, là, que ça va être enfin le 12 mars, qu'on allait apprendre à quelle hauteur va être le déficit du Québec, parce que c'est pas mal la seule attente qu'on a réellement par rapport à ce budget-là. On sait, on n'attend pas vraiment de baisse d'impôts de la part du gouvernement Legault, comme c'était le cas l'année dernière. Donc, les nananes ne seront pas au rendez-vous pour les contribuables, du moins, pas pour l'instant, on n'a pas reçu de message ou de quelconque indication de la part du ministère des Finances que il allait avoir une baisse d'impôts, une baisse de taxes ou autre. Donc, nous, on a fait des démarches, on a fait un petit peu de recherche de notre côté pour voir à quoi on doit s'attendre pour le prochain budget. Puis, on cherche à rappeler qu'à la base, on nous promettait un déficit, puis on dit vraiment, c'est promis comme tel, un déficit de 3 milliards. Ça veut dire que on dépensait 3 milliards de plus que ce qu'on avait en revenus, mais c'était supposé aller en diminution. C'est-à-dire qu'au courant des prochaines années, jusqu'en 2027-2028, on allait réduire ce déficit-là de 1 milliard par année. Mais ça, c'était avant que François Legault, disons-le franchement, là, cède devant les syndicats et leur donne 11,4 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, avant qu'il annonce le 870 millions pour le stade, avant qu'il annonce un paquet d'autres affaires aussi. Je pense que finalement, ce déficit-là, on est quasiment garanti qu'il va être le double de ce qui était établi au départ. Et c'est un drôle de contraste, parce qu'il faut rappeler que M. Legault, tantôt je faisais référence au fait que c'était un comptable de formation, mais quand il est arrivé au pouvoir en 2018, il y avait le surplus budgétaire le plus important de l'histoire du Québec.
Oui.
Et là, quand est arrivée la pandémie, on sait qu'il y a eu un ralentissement de l'économie, les commerces ont dû fermer, il a commencé à faire des programmes à droite et à gauche, et au final, on s'est ramassé avec le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Sauf que là, on n'est plus en temps de pandémie. On n'est plus en état d'urgence. Donc, normalement, il y aurait dû avoir un redressement qui se fait, mais malgré tout, on va se retrouver dans une situation où on va avoir un déficit beaucoup plus important que ce qu'on avait il y a 2-3 ans. Je veux dire, même en temps de pandémie, en 2021-2022, le déficit n'aurait pas été aussi important que ce qu'on s'attend à avoir en mars prochain, ce qui est très grave. Donc, c'est sûr que de notre côté, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir, comme je dis, pour les contribuables. Il n'y a rien qui a été annoncé de la part du gouvernement. Puis on a même des craintes, et ça, j'espère qu'elles ne seront pas fondées, que je me trompe. Mais on sait qu'il y a beaucoup de pression de différents groupes pour augmenter la taxe sur l'essence au Québec. Entre autres, là, la Chaire de fiscalité et des finances là, de l'Université de Sherbrooke font beaucoup de pression. Du moins, ont ramené beaucoup de l'avant l'idée d'augmenter d'une cent par année la taxe provinciale sur l'essence. Présentement, c'est 19 cents par litre. Eux, ils espèrent l'augmenter peut-être à 20 cents, puis 21 cents, et successivement une cent de plus pour être en mesure de corriger le déficit dans la gestion des routes au Québec, qu'on sait qui, au final, sont dans un état assez pitoyable. On le sait déjà tous très bien. Mais aussi que le fonds qui s'occupe de ça, le FORC, ce fonds-là, comme tel, il est déficitaire au courant des prochaines années. Donc, il essaie de l'équilibrer avec une augmentation des taxes. On espère sincèrement que le gouvernement ne va pas aller dans cette direction-là, parce que sinon, c'est sûr et certain qu'on va s'assurer de faire une mobilisation assez importante pour se battre contre cette augmentation-là. Pour l'instant, on n'a pas eu d'indication si ça allait avoir lieu ou pas, donc on touche du bois. Mais pour le reste, ce qui est plus grave au final, et ça, je dirais que c'est ça me rend un peu pessimiste, c'est effectivement le fait que ce déficit-là, finalement, il va continuer à être là pour plusieurs années, un peu à l'instar de ce qu'on voit à Ottawa. On voit des déficits qui sont là à perpétuité. On n'a pas de plan pour rééquilibrer les finances publiques. Et en plus, on sait tous très bien que ce qui doit être fait pour rééquilibrer les finances publiques à ce stade-ci, c'est la chose la moins populaire, et c'est de réduire les dépenses. Et réduire les dépenses, ça vient généralement avec des coupures de postes, des coupures de programmes, des réductions, des restructurations de différents ministères, ce qui fait en sorte que il y a personne qui est vraiment populaire quand il va s'attaquer à sa propre fonction publique, comme le promettait Legault en 2018. Mais là, il n'y a pas le choix s'il veut être en mesure de donner aux générations futures des finances publiques qui sont équilibrées et aussi faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un poids de plus en plus lourd de la dette sur nos finances publiques. Parce que juste cette année, c'est 10 milliards que ça a coûté en frais d'intérêt et ça va continuer à augmenter au courant des prochaines années. Quand M. Legault va quitter le pouvoir, juste durant son dernier mandat, on aurait versé pas loin de 35 milliards juste pour payer des intérêts sur la dette. Donc, c'est des éléments comme ça qui font en sorte qu'on espère sincèrement qu'au prochain budget, on va avoir un réveil de la part de François Legault, mais pour l'instant, on n'a aucune indication claire que ça va avoir lieu.
T'sais, la pandémie, on n'aurait pas pu la prévoir. Par contre, la façon dont ils ont géré la pandémie, ça, on peut se questionner. La façon dont ils ont distribué l'argent aussi, on peut se questionner. Mais souvenons-nous de François Legault lorsqu'il était dans l'opposition, quand il s'agissait... tu te souviens-tu de l'erreur comptable d'Hydro-Québec? Ça a fait en sorte que les Québécois avaient payé en trop un genre d'un milliard de dollars. Tu te souviens-tu
oui,
de ça? C'était Philippe Couillard qui était au pouvoir, puis François Legault était dans l'opposition, puis il avait promis à ce moment-là que, en raison de l'erreur d'Hydro-Québec, en raison des calculs, bon, on allait donner l'argent aux Québécois, puis finalement, une fois rendu au pouvoir, il nous avait donné juste la moitié. L'autre moitié, elle va où? T'sais, on ne sait jamais où va cet argent-là. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il dépense toujours plus que ce que ça rapporte. Puis à chaque fois qu'on se rend compte qu'on se rend compte de ça, ils disent « Ouais, faudrait peut-être voir à peut-être augmenter les taxes sur l'essence. Est-ce qu'ils vont pousser l'audace à nous monter peut-être encore une fois la TVQ? Ils pourraient-tu toucher à TVQ pour les prochaines années? »
Ben, c'est sûrement toutes des solutions qu'ils envisagent pour l'instant. Pour répondre à ta question par rapport au surplus d'Hydro-Québec là, qui était supposé être donné à l'ensemble des contribuables, je pense que c'est environ 1,5 milliard, puis il y avait juste environ 500 millions, un peu plus de 500 millions qui avaient été redonnés aux contribuables, puis là, donc directement sur les factures d'électricité. Et l'autre milliard, ça, c'est effectivement c'est une drôle d'attrape, c'est qu'au final, on dit qu'on allait redonner ça aux contribuables à travers le gel des tarifs qui a eu lieu en 2020. Donc, on dit, ben, on vous le redonne, mais c'est parce qu'on n'augmente pas les tarifs, c'est pour ça que vous avez récupéré votre argent. Mais c'est pas le même que ça fonctionne. C'est un beau calcul comptable pour nous faire croire qu'on a récupéré notre argent, mais au final, on l'a pas récupéré. Mais il n'en reste que c'est toutes des choses comme ça qu'on dit, ben oui, on a le droit, par exemple, à une baisse d'impôt l'année dernière de 1 % qui est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Mais de l'autre côté, le 1er janvier, on a eu des hausses de charges sociales sur le RFQ ou sur l'assurance-emploi qui font en sorte qu'au final, ben, la baisse d'impôts, la plupart des gens ne la voient pas. Donc, c'est sûr qu'il y a c'est des affaires comme ça qu'on espère que François Legault réalise qu'il n'y a quand même pas le choix éventuellement d'une part de réduire les dépenses, d'une autre part de vraiment aider les contribuables, surtout dans les conditions économiques qu'on connaît présentement. Sauf que, comme je dis, pour réduire les dépenses, généralement, on fait ça quand on est populaire, parce que le résultat, c'est une perte de popularité. Donc, le problème, c'est que quand on regarde les sondages présentement, puis je suis pas mal sûr que M. Legault les regarde beaucoup, et il dit pas en ce moment, oui, c'est le temps de réduire, après m'être battu, puis d'avoir perdu un peu la face devant les syndicats, c'est le temps de retourner au combat, puis de réduire l'appareil public, alors qu'on sait tous très bien que c'est pas le genre de chose qui est populaire, ni au Québec, ni à Ottawa, ni ailleurs.
Il y a de plus en plus de fonctionnaires avec la CAQ. Là. Ça finit plus, puis ça, c'est des fonds de pension en bout de ligne qu'on va payer plus tard. Là.
Ben oui, puis surtout que, tu sais, je tiens à rappeler une chose, quand on est déficitaire, puis on s'entend que François Legault, il est quand même au courant des finances de la province au complet, dans une certaine mesure, quand on est déficitaire, on fait pas des annonces en disant qu'on va faire un nouveau toit pour le Stade olympique de Montréal à 870 millions. On ne fait pas d'annonce pour dire qu'on va donner des millions à une équipe de hockey pour qu'elle vienne jouer à Québec. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne fait pas quand on est déficitaire. C'est une question de priorité. Malheureusement, en ce moment, on n'a pas vraiment d'indication que le sens des priorités est au rendez-vous à Québec. Fait que nous, on va être au rendez-vous à Québec le 12 mars. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais être dans le coin de Québec pour me rendre directement au huis clos budgétaire puis m'assurer de lire ces centaines de pages là, qui vont nous être données à tous les participants pour qu'on puisse voir finalement est-ce qu'on a le droit à des cadeaux qui étaient cachés puis que finalement on a le droit peut-être à un allègement ici ou à droite ou à gauche. Est-ce qu'on a finalement une taxe cachée qui est ajoutée? C'est le genre de choses qu'on va pouvoir vraiment visualiser le 12 mars prochain. Pour l'instant, comme je dis, j'ai vraiment très peu d'espoir. J'aimerais ça en avoir plus, mais les dernières semaines m'ont rendu pessimiste. Mais on va s'assurer de garder le fort et de maintenir le combat là, pour s'assurer d'obtenir des gains pour les contribuables malgré tout.
Pourquoi Michel Girard doit dépenser 7 millions de dollars pour avoir les Kings à Québec, mais quand des gens de Salt Lake City appellent les Kings pour que les Kings puissent jouer à Salt Lake City, il s'agit juste d'un appel, il n'y a pas de millions de dollars qui sont en jeu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ici au Québec? Ailleurs, ils ne payent pas, puis nous, ben, on est toujours là à vouloir payer puis donner de l'argent aux gens d'extérieur?
Bien ça, c'est une bonne question. Puis on s'entend qu'il y a un élément qui est souvent peu considéré au Québec aussi. On a juste une équipe de hockey, malheureusement, de la LNH. Puis on aimerait ça en avoir une deuxième. Mais des fois, on se demande pourquoi est-ce que certains joueurs du reste de la LNH ne veulent pas venir jouer à Montréal, par exemple. Bien, c'est souvent à cause des impôts. Il y a une très grande partie pour ça. Puis il faut aussi regarder d'un autre point de vue, ce qui se passe dans les autres villes aussi, aux États-Unis puis au Canada, par rapport à ces fameux matchs pré-saison qui s'en viennent à la fin de l'année, on a entre autres la ville de Halifax. On s'entend qu'Halifax, ils n'ont pas d'équipe de la LNH. Ils ont probablement, en tout cas, aux dernières nouvelles, je ne sais pas s'ils ont un centre qui est équivalent en termes de grandeur à celui du centre Vidéotron. Mais il n'en reste qu'au final, ils vont recevoir des matchs pré-saison. Ils n'auront pas besoin de mettre de l'argent des contribuables là-dedans. On a la ville de Independence qui est au Missouri, qui qui n'aura pas besoin de mettre de l'argent des contribuables là-dedans. Puis vous avez aussi la ville de Wichita, qui est au Kansas, très peu connue également, mais qui va recevoir quand même des matchs pré-saison sans sortir de l'argent sans prendre l'argent des contribuables pour les accueillir. Alors que nous, je ne sais pas pourquoi, mais on s'est même doté d'une stratégie au gouvernement du Québec où est-ce qu'on a dit que M. Girard, c'est pas juste le ministre des Finances, c'est le ministre du retour des Nordiques. Et c'est comme si on s'était automatiquement fait signer un chèque en blanc pour dire « tous les moyens sont bons pour ramener les Nordiques ». Si ça veut dire qu'on doit démontrer à la LNH et à tous les autres partenaires qu'on est prêt à sortir du cash parce qu'on est sérieux dans notre démarche.
Ou on est niaiseux. Il y a comme deux possibilités là. Mais je trouve ça un peu niaiseux. T'sais, en plus, je veux dire, pour ajouter l'insulte à l'injure sur ce qu'on vit ici, puis avec l'argent des contribuables, les Kings de Los Angeles ont quand même dit « on va aller aussi souvent que vous voulez au Minnesota. T'sais, on va revenir.
Ben, » c'est ça. Ça n'a pas de bon sens que, t'sais, au final, on a dû payer pour, puis que, je veux dire, nous, on n'aura pas de garantie que les Kings de Los Angeles vont vouloir revenir à Québec pour rejouer par la suite. Au final, c'est un bête de croire qu'il va y avoir des retombées économiques avec ça. On s'entend que c'est pas deux matchs de pré-saison là, qui changent beaucoup le produit intérieur brut de la ville de Québec.
Ah, mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Ça, je suis pas d'accord avec toi, Nicolas. Écoute, tous mes amis de l'Ontario s'en viennent à Québec, là, puis ils ont loué beaucoup de chambres d'hôtel, plein de restaurants. Ils s'en vont au Strom Spa cette fin de semaine-là. Mm. Fait qu'imagine si ça, c'est juste mes amis ontariens.
Ben oui.
Mais ça, c'est bon, mais tant mieux s'il y en a. Mais pour vrai, tant mieux s'il y en a, mais d'un autre côté...
Nicolas, c'est une farce.
Elle te niaise.
Est-ce que les retombées économiques vont... OK, je pensais que c'était...
J'ai même pas d'amis ontariens.
Tant mieux si t'as des amis ontariens, là.
Mais
si c'est le cas, parce qu'on s'entend que des matchs de même, aussi niaiseux que ça puisse paraître, il y a du monde qui vont partir de loin pour aller voir le match des Kings juste parce qu'ils aiment le hockey et ils sont des passionnés de ça. Ils vont en avoir du monde qui vont se pointer, mais est-ce qu'on va rentabiliser 7 millions? Je pense pas. Puis de toute manière, c'est prouvé. De l'argent public, que ce soit pour des événements sportifs ou des stands sportifs ou des stades, les retombées économiques sont toujours nulles. Puis ça, c'est tous les économistes qui s'entendent là-dessus.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Dernier segment, je voulais te parler de Nordvolt. Est-ce qu'on est trop critique, trop sévère envers Nordvolt?
Non, mais là, je vais dire un peu oui, parce que j'ai vu la nouvelle tantôt qu'il y a du monde qui ont essayé de faire du vandalisme sur le site de Nordvolt en mettant des tapis cloutés, là, ou cloués, ou peu importe, là. Ça, on s'entend que ça, c'est des gens qui méritent pas du tout d'être entendus d'aucune manière parce qu'on est rendu dans les actes criminels. Par contre, pour venir à la question, est-ce que nous, collectivement, on est trop sévères? Non, pas du tout. Pour plusieurs raisons. De un, à la base, c'est ça, sur ce terrain-là où est-ce que Nordvolt va s'installer en Montérégie, c'était supposé, au début, être un projet immobilier de 3000 logements qui était fait avec de l'argent privé. Là, finalement, on s'en va plutôt créer 3000 emplois avec l'argent des contribuables dans un projet qui est de plus en plus, je dirais, qui souligne, il y a de plus en plus de red flags alentour de ce dossier-là. On le voit avec la manière que les études environnementales ont été manipulées. On voit comment est-ce que les travaux parlementaires ont lieu par rapport à ce dossier-là, puis l'absence de transparence de la part du ministre Fitzgibbon sur tous les éléments qui sont liés au lancement du projet entre le moment où est-ce qu'il y a eu la première rencontre avec Nordvolt puis le moment où est-ce qu'il y a eu la première pelletée de terre. Il s'est passé bien des choses que les contribuables ne sont pas au courant. Mais Fitzgibbon il a fait une sortie par rapport à ça en disant que on devrait arrêter de juger un tel projet parce que c'est un des plus gros projets d'investissement privé de l'histoire du Québec. Il faut rappeler encore une fois que c'est 100% de l'argent des contribuables qu'il y a là-dedans. Mais d'un autre côté, c'est comme si on n'avait pas le droit de critiquer, de faire de demandes d'accès à l'information ou que les journalistes n'avaient pas le droit, par exemple, de poser des questions plus pointues pour savoir exactement à quoi on doit s'attendre plutôt de ce projet-là. Au final, je veux dire, c'est bien normal qu'on soit tous critiques du projet. Quand on met de l'argent dans un projet, que ce soit pour ça ou que ce soit pour Bombardier ou que ce soit... Cimenterie mécaniste, les Kings de Los Angeles, peu importe le dollar qu'on met dans un projet, c'est normal de demander des études sur les retombées économiques puis des études crédibles. On le voit avec le Stade olympique, on a demandé les études pour les retombées économiques, on les obtient pas. C'est pas normal qu'on va mettre 870 millions de dollars dans un projet d'infrastructure, puis on peut pas se faire dire comment est-ce que cet argent-là va être utilisé, puis comment est-ce que cet argent-là va faire fructifier l'économie alentour. Ben, c'est la même chose pour Nordvolt, c'est la même chose pour n'importe quel projet. Donc, quand un ministre vous dit que vous êtes trop critique, vous êtes trop sévère par rapport à un projet, c'est probablement parce que vous ne l'êtes pas assez.
Oui. Puis, tu sais, je sais que des fois, je vis en utopie, là, Nicolas, mais moi, à chaque fois qu'un politicien prend notre argent, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu de son argent personnel d'investi.
Oui.
Parce que, tu sais, dans le panier bleu, là, qui est encore un autre fiasco québécois, là, moi, j'aime bien l'appeler depuis le début, Amazouf. Dans le panier bleu, tout le monde savait que ça n'allait jamais fonctionner puis qu'on aurait peut-être avantage à s'allier avec l'ennemi, avec un fameux fleur de lys sur les produits d'Amazon qui sont québécois. Tout le monde savait ça, mais on a préféré prendre l'argent des Québécois puis dire à la blonde, à Christian Dubé, « Hey, va-t'en donc à la tête de ce panier bleu-là. » Puis après ça, on a changé l'organigramme. Puis après ça, on a rendu ça, c'était plus public, là, le panier bleu. C'était rendu privé. Puis on se rend compte que c'est un véritable fiasco. Mais ces policiers-là n'auraient jamais investi une cent de leur propre argent là-dedans. Là. Par contre, quand c'est le temps de placer nos amis pour avoir des gros salaires, ça, on n'est pas gêné.
Ben oui. Le pire, c'est que pour le panier bleu, je suis encore plus surpris de me dire que même Desjardins a mis de l'argent là-dedans. En sachant très bien que c'était déjà voué à l'échec avant même que l'idée soit sur la table. Mettre 22 millions de dollars, autant d'argent public que privé dans un site web, que ça a pris des années avant que ça devienne transactionnel. Il y a vraiment, s'il y avait quelqu'un qui pensait que ça allait se battre ou que ça allait être même compétitif contre Amazon, j'aimerais vraiment entendre sa version des faits et savoir c'est qui son pocheur, parce que pour le reste, il y avait vraiment très peu d'indications claires là-dessus, mais on s'entend que c'est pas le seul fiasco qu'on a eu au Québec au courant des dernières années, puis c'est pas pour rien qu'on demande des comptes. Vous avez entre autres les espaces bleus qui ont été annoncés durant la pandémie. On annonçait qu'elle allait avoir au-dessus de 16 lieux culturels, autant des musées que des endroits d'art ou de ne serait-ce que pour souligner la culture québécoise comme telle. Finalement, le budget a été défoncé, puis on se ramasse avec 3-4 lieux gros maximum, et on sait même pas s'ils vont être complétés d'ici les élections 2026. Donc, je veux dire, c'est le genre de choses comme ça où est-ce que des fois, il faut avoir un peu plus de transparence de la part du gouvernement ou sinon avoir un véritable feu vert d'une instance indépendante avant que ça aille de l'avant. C'est pas pour rien qu'on demande aussi un directeur parlementaire du budget à Québec, parce qu'on sait qu'avec la CAQ et avec les gouvernements avant aussi, là, c'est pas juste le propre de la CAQ, il y a eu trop souvent de situations comme ça où est-ce qu'on manquait de clarification, on manquait de transparence, on manquait de données, mais on est quand même allé de l'avant pour une idée qui était